La faute de l'abbé Mouret, chapitre 14. Éclairée d'une seule lampe brûlant sur l'autel de la Vierge, au milieu des verdures, l'église s'emplissait aux deux bouts de grandes ombres flottantes. La chaire jetait un pan de ténèbres jusqu'aux solives du plafond. Le confessionnal faisait une masse noire, découpant sous la tribune le profil étrange d'une guérite crevée. Toute la lumière, adoucie, comme verdie par les feuillages, dormait sur la grande Vierge dorée qui semblait descendre d'un air royal porté par le nuage où se jouaient des têtes d'anges ailées. On eût dit avoir la lampe ronde luire au milieu des branches, une lune pâle se levant au bord d'un bois, éclairant quelque souveraine apparition, une princesse du ciel couronnée d'or, vêtue d'or, qui aurait promené la nudité de son divin enfant au fond du mystère des allées. Entre les feuilles, le long des hauts panaches, dans le large berceau ogival et jusque sur les rameaux jetés à terre, des rayons d'astres coulaient, assoupis, pareils à cette pluie laiteuse qui pénètre les buissons par les nuits claires. Des bruits vagues, des craquements venaient des deux bouts sombres de l'église. La grande horloge à gauche du chœur battait lentement avec une haleine grosse de mécanique endormie, et la vision radieuse, la mère aux minces bandeaux de cheveux châtains, comme rassurée par la paix nocturne de la nef, descendait davantage, courbait à peine l'herbe des clairières sous le vol léger de son nuage. L'abbé Mouret la regardait. C'était l'heure où il aimait l'église. Il oubliait le Christ lamentable, le supplicié barbouillé d'ocre et de lac qui agonisait derrière lui à la chapelle des morts. Il n'avait plus la distraction de la clarté crue des fenêtres, des gaietés du matin entrant avec le soleil, de la vie du dehors, des moineaux et des branches envahissant la nef par les carreaux cassés. À cette heure de nuit, la nature était morte. L'ombre tendait de crêpes les murs blanchis, la fraîcheur lui mettait aux épaules un cilice salutaire. Il pouvait s'anéantir dans l'amour absolu sans que le jeu d'un rayon, la caresse d'un souffle ou d'un parfum, le battement d'une aile d'insecte, vint le tirer de sa joie d'aimer. Sa messe du matin ne lui avait jamais donné les délices surhumains de ses prières du soir. Les lèvres balbutiantes, l'abbé Mouret regardait la grande Vierge. Il la voyait venir à lui, du fond de sa niche verte, dans une splendeur croissante. Ce n'était plus un clair de lune roulant à la cime des arbres. Elle lui semblait vêtue de soleil. Elle s'avançait majestueusement, glorieusement, colossale, si toute puissante qu'il était tenté par moments de se jeter de la face contre terre pour éviter le flamboiement de cette porte ouverte sur le ciel. Alors, dans cette adoration de tout son être qui faisait expirer les paroles sur la bouche, il se souvint du dernier mot de frère Archangias comme d'un blasphème. Souvent, le frère lui reprochait cette dévotion particulière à la Vierge, qu'il disait être un véritable vol fait à la dévotion de Dieu, selon lui. Cela amollissait les âmes, enjuponnait la religion, créait toute une sensiblerie pieuse indigne d'effort. Il gardait rancune à la Vierge d'être femme, d'être belle, d'être mère. Il se tenait en garde contre elle, pris de la crainte sourde de se sentir tenté par sa grâce, de succomber à sa douceur de séductrice. « Elle vous mènera loin », avait-il crié un jour au jeune prêtre, voyant en elle un commencement de passion humaine, une pente aux délices des beaux cheveux châtains, des grands yeux clairs, du mystère des robes tombant du col à la pointe des pieds. C'était la révolte d'un saint qui séparait violemment la mère du fils en demandant comme celui-ci « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ?» Mais l'abbé Mouret résistait, se prosternait, tâchait d'oublier les rudesses du frère. Il n'avait plus que ce ravissement dans la pureté immaculée de Marie qui le sortit de la bassesse où il cherchait à s'anéantir. Lorsque seul, en face de la grande Vierge dorée, il s'hallucinait jusqu'à la voir se pencher pour lui donner ses bandeaux à baiser, il devenait très jeune, très bon, très fort, très juste, tout envahi d'une vie de tendresse. La dévotion de l'abbé Mouret pour la Vierge datait de sa jeunesse. Tout enfant un peu sauvage, se réfugiant dans les coins, il se plaisait à penser qu'une belle dame le protégeait, que deux yeux bleus très doux, avec un sourire, le suivaient partout. Souvent, la nuit, ayant senti un léger souffle lui passer sur les cheveux, il racontait que la Vierge était venue l'embrasser. Il avait grandi sous cette caresse de femme, dans cet air plein d'un frôlement de jupe divine. Dès 7 ans, il contentait ses besoins de tendresse en dépensant tous les sous qu'on lui donnait à acheter des images de sainteté qu'il cachait jalousement pour en jouir seul. Et jamais il n'était tenté par les Jésus portant l'agneau, les Christs en croix, les dieux le Père se penchant avec une grande barbe au bord d'une nuée. Il revenait toujours aux tendres images de Marie, à son étroite bouche riante, à ses fines mains tendues. Peu à peu, il les avait toutes collectionnées. Marie entre un lys et une quenouille, Marie portant l'enfant comme une grande sœur, Marie couronnée de roses, Marie couronnée d'étoiles. C'était pour lui une famille de belles jeunes filles ayant une ressemblance de grâce, le même air de bonté, le même visage suave, si jeunes sous leur voile que malgré leur nom de mère de Dieu, ils n'avaient point peur d'elles comme des grandes personnes. Elles lui semblaient avoir son âge, être les petites filles qu'il aurait voulu rencontrer, les petites filles du ciel avec lesquelles les petits garçons morts à 7 ans doivent jouer éternellement dans un coin du paradis. Mais il était grave déjà. Il garda, en grandissant, le secret de son religieux amour pris des pudeurs exquises de l'adolescence. Marie vieillissait avec lui, toujours plus âgée d'un ou 2 ans, comme il convient à une amie souveraine. Elle avait 20 ans lorsqu'il en avait 18. Elle ne l'embrassait plus, la nuit, sur le front. Elle se tenait à quelques pas, les bras croisés, dans son sourire chaste, adorablement douce. Lui ne la nommait plus que tout bas, éprouvant comme un évanouissement de son cœur chaque fois que le nom chéri lui passait sur les lèvres, dans ses prières. Il ne rêvait plus des jeux enfantins au fond du jardin céleste, mais une contemplation continue en face de cette figure blanche, si pure, à laquelle il n'aurait pas voulu toucher de son souffle. Il cachait à sa mère elle-même qu'il l'aima si fort. Puis, à quelques années de là, lorsqu'il fut au séminaire, cette belle tendresse pour Marie, si droite, si naturelle, eut de sourdes inquiétudes. Le culte de Marie était-il nécessaire au salut? Ne voulait-il pas à Dieu en accordant à Marie une part de son amour, la plus grande part, ses pensées, son cœur, son tout? Question troublante, combat intérieur qui le passionnait, qui l'attachait davantage. Alors il s'enfonça dans les subtilités de son affection. Il se donna des délices inouïs à discuter la légitimité de ses sentiments. Les livres de dévotion à la Vierge l'excusèrent, le ravirent, l'emplirent de raisonnements qu'il répétait avec des recueillements de prières. Ce fut là qu'il apprit à être l'esclave de Jésus en Marie. Il allait à Jésus par Marie. Et il citait toutes sortes de preuves. Il distinguait, il tirait des conséquences. Marie, à laquelle Jésus avait obéi sur la terre, devait être obéie par tous les hommes. Marie gardait sa puissance de mère dans le ciel, où elle était la grande dispensatrice des trésors de Dieu, la seule qui put l'implorer, la seule qui distribua les trônes. Marie, simple créature auprès de Dieu, mais haussée jusqu'à lui, devenait ainsi le lien humain du ciel à la terre, l'intermédiaire de toute grâce, de toute miséricorde. Et la conclusion était toujours qu'il fallait l'aimer par-dessus tout, en Dieu lui-même. Puis, c'était des curiosités théologiques plus ardues, le mariage de l'époux céleste, le Saint-Esprit scellant le vase d'élection, mettant la Vierge Mère dans un miracle éternel, donnant sa pureté inviolable à la dévotion des hommes. C'était la Vierge victorieuse de toutes les hérésies, l'ennemi irréconciliable de Satan, l'Ève nouvelle annoncée comme devant écraser la tête du serpent, la porte auguste de la grâce par laquelle le Sauveur était entré une première fois, par laquelle il entrerait de nouveau au dernier jour, prophétie vague, annonce d'un rôle plus large de Marie, qui laissait Serge sous le rêve de quelques épanouissements immenses d'amour. Cette venue de la femme dans le ciel jaloux et cruel de l'Ancien Testament, cette figure de blancheur mise au pied de la Trinité redoutable, était pour lui la grâce même de la religion, ce qui le consolait de l'épouvante de la foi, son refuge d'homme perdu au milieu des mystères du dogme. Et quand il se fut prouvé, point par point, longuement, quel était le chemin de Jésus, aisé, court, parfait, assuré, il se livra de nouveau à elle tout entier, sans remords. Il s'étudia à être son vrai dévot, mourant à lui-même, s'abîmant dans la soumission. Heure de volupté divine, les livres de dévotion à la Vierge brûlaient entre ses mains. Il lui parlait une langue d'amour qui fumait comme un encens. Marie n'était plus l'adolescente voilée de blanc, les bras croisés, debout à quelques pas de son chevet. Elle arrivait au milieu d'une splendeur telle que Jean la vit, vêtue de soleil, couronnée de 12 étoiles, ayant la lune sous les pieds. Elle l'embaumait de sa bonne odeur, l'enflammait du désir du ciel, la ravissait, jusque dans la chaleur des astres flambant à son front. Il se jetait devant elle, se criait son esclave, et rien n'était plus doux que ce mot d'esclave qu'il répétait, qu'il goûtait davantage sur sa bouche balbutiante, à mesure qu'il s'écrasait à ses pieds, pour être sa chose, son rien, la poussière effleurée du vol de sa robe bleue. Il disait avec David, « Marie est faite pour moi. » Il ajoutait, avec l'évangéliste, « Je l'ai prise pour tout mon bien. » Il la nommait « ma chère maîtresse », manquant de mots, arrivant dans un babillage d'enfants et d'amants, n'ayant plus que le souffle entrecoupé de sa passion. Elle était la bienheureuse, la reine du ciel célébrée par les 9 cœurs des anges, la mère de la belle d'élection, le trésor du Seigneur. Les images vives s'étalaient, la comparaient à un paradis terrestre, fait d'une terre vierge, avec des parterres de fleurs vertueuses, des prairies vertes d'espérance, des tours imprenables de force, des maisons charmantes de confiance. Elle était encore une fontaine que le Saint-Esprit avait scellée, un sanctuaire où la très sainte Trinité se reposait, le trône de Dieu, la cité de Dieu, l'autel de Dieu, le temple de Dieu, le monde de Dieu. Et lui se promenait dans ce jardin, à l'ombre, au soleil, sous l'enchantement des verdures. Lui soupirait après l'eau de cette fontaine. Lui habitait le bel intérieur de Marie, s'y appuyant, s'y cachant, s'y perdant sans réserve, buvant le lait d'amour infini qui tombait goutte à goutte de ce sein virginal. Chaque matin, dès son lever au séminaire, il saluait Marie de 100 révérences, le visage tourné vers le pan de ciel qu'il apercevait par sa fenêtre. Le soir, il prenait congé d'elle en s'inclinant le même nombre de fois, les yeux sur les étoiles. Souvent, en face des nuits sereines, lorsque Vénus luisait toute blonde et rêveuse dans l'air tiède, il s'oubliait. Il laissait tomber de ses lèvres ainsi qu'un léger chant l'Ave Maria Stella, l'hymne attendri qui lui déroulait au loin des plages bleues, une mer douce, à peine ridée d'un frisson de caresse, éclairée par une étoile souriante aussi grande qu'un soleil. Il récitait encore le Salve Regina, l'O Gloriosa Domina, toutes ses prières, tous les cantiques. Il lisait l'office de la Vierge, les livres de sainteté en son honneur, le petit psautier de Saint Bonaventure, d'une tendresse si dévote que les larmes l'empêchaient de tourner les pages. Il jeûnait, il se mortifiait pour lui faire l'offrande de sa chair meurtrie. Depuis l'âge de 10 ans, il portait sa livrée, le saint scapulaire, la double image de Marie cousue sur drap, dont il sentait la chaleur à son dos et à sa poitrine, contre sa peau nue, avec des tressaillements de bonheur. Plus tard, il avait pris la chaînette afin de montrer son esclavage d'amour. Mais son grand acte restait toujours la salutation angélique, l'Ave Maria, la prière parfaite de son cœur. « Je vous salue, Marie. » Et il la voyait s'avancer vers lui, pleine de grâce, bénie entre toutes les femmes. Il jetait son cœur à ses pieds pour qu'elle marchât dessus dans la douceur. Cette salutation, il la multipliait, il la répétait de 100 façons, s'ingéniant à la rendre plus efficace. Il disait 12 Ave pour rappeler la couronne de 12 étoiles saignant le front de Marie. Il en disait 14 en mémoire de ses 14 allégresses. il en disait 7 dizaines en l'honneur des années qu'elle a vécues sur la terre. Il roulait pendant des heures les grains du chapelet, puis longuement, à certains jours de rendez-vous mystique, il entreprenait le chuchotement infini du rosaire. Quand, seul dans sa cellule, ayant le temps d'aimer, il s'agenouillait sur le carreau, tout le jardin de Marie poussait autour de lui avec ses hautes floraisons de chasteté. Le rosaire laissait couler entre ses doigts sa guirlande d'ave coupée de pater, comme une guirlande de roses blanches mêlée de lys l'annonciation des fleurs saignantes du calvaire, des étoiles du couronnement. Il avançait à pas lents le long des allées embaumées, s'arrêtant à chacune des 15 dizaines d'ave, se reposant dans le mystère auquel elles correspondaient. Il restait éperdu de joie, de douleur, de gloire, à mesure que les mystères se groupaient en 3 séries, les joyeux, les douloureux, les glorieux. Légende incomparable, histoire de Marie, vie humaine complète avec ses sourires, ses larmes, son triomphe qu'il revivait d'un bout à l'autre en un instant. Et d'abord, il entrait dans la joie, dans les 5 mystères souriants, baignés des sérénités de l'aube. C'était la salutation de l'archange. Un rayon de fécondité glissait du ciel, apportant la pâmoison adorable de l'union sans tache. La visite à Élisabeth, par une claire matinée d'espérance, à l'heure où le fruit de ses entrailles donnait pour la première fois à Marie cette secousse qui fait pâlir les mères. Les couches dans une étable de Bethléem, avec la longue file des bergers venant saluer la maternité divine. Le nouveau-né porté au temple sur les bras de la couchée qui sourit, lasse encore, déjà heureuse d'offrir son enfant à la justice de Dieu, aux embrassements de Siméon, aux désirs du monde. Enfin, Jésus grandit, se relevant devant le docteur, au milieu desquels sa mère inquiète se retrouve fière de lui et consolée. Puis, après ce matin, d'une lumière si tendre, il semblait à Serge que le ciel se couvrait brusquement. Il ne marchait plus que sur des ronces, s'écorchant les doigts au grain du rosaire, se courbait sous l'épouvantement des 5 mystères de douleur. Marie agonisant dans son fils au jardin des oliviers, recevant avec lui les coups de fouet de la flagellation, sentant à son propre fond le déchirement de la couronne d'épines, portant l'horrible poids de sa croix, mourant à ses pieds sur le calvaire. Ces nécessités de la souffrance, ce martyr atroce d'une reine adorée pour qui il eût donné son sang comme Jésus, lui causait une révolte d'horreur que 10 années des mêmes prières, des mêmes exercices n'avaient pu calmer. Mais les grains coulaient toujours, une trouée soudaine se faisait dans les ténèbres du crucifiement. La gloire resplendissante des 5 derniers mystères éclatait avec une allégresse d'astres libres. Marie, transfigurée, chantait l'Alléluia de la résurrection, la victoire sur la mort, l'éternité de la vie. Elle assistait, les mains tendues, renversée d'admiration au triomphe de son fils qui s'élevait au ciel parmi des nuées d'or frangées de pourpre. Elle rassemblait autour d'elle les apôtres, goûtant comme au jour de la conception l'embrasement de l'esprit d'amour descendu en flammes ardentes. Elle était, à son tour, ravie par un vol d'ange, emportée sur des ailes blanches, ainsi qu'une arche immaculée, déposée doucement au milieu de la splendeur des trônes célestes. Et là, comme gloire suprême, dans une clarté si éblouissante qu'elle éteignait le soleil, Dieu la couronnait des étoiles du firmament. La passion n'a qu'un mot. En disant à la file les 150 ave, Serge ne les avait pas répétées une seule fois. Ce murmure monotone, cette parole, sans cesse la même, qui revenait pareil au « Je t'aime » des amants, prenait chaque fois une signification plus profonde. Il s'y attardait, causait sans fin à l'aide de l'unique phrase latine, connaissait Marie tout entière, jusqu'à ce que le dernier grain du rosaire s'échappant de ses mains, il se sentit défaillir à la pensée de la séparation. Bien des fois, le jeune homme avait ainsi passé les nuits, recommençant à 20 reprises les 10 ave, retardant toujours le moment où il devait prendre congé de sa chère maîtresse. Le jour naissait qu'il chuchotait encore. C'était la lune, disait-il pour se tromper lui-même, qui faisait pâlir les étoiles. Ses supérieurs devaient le gronder de ses veilles dont il sortait alangui, le teint si blanc qu'il semblait avoir perdu du sang. Longtemps, il avait gardé au mur de sa cellule une gravure coloriée du Sacré-Cœur de Marie. La Vierge, souriant d'une façon sereine, écartait son corsage, montrait dans sa poitrine un trou rouge où son cœur brûlait, traversé d'une épée couronnée de roses blanches. Cette épée le désespérait. Elle lui causait cette intolérable horreur de la souffrance chez la femme dont la seule pensée le jetait hors de toute soumission pieuse. Il l'effaça. Il ne garda que le cœur couronné et flambant, arraché à demi de cette chair exquise pour s'offrir à lui. Ce fut alors qu'il se sentit aimé. Marie lui donnait son cœur vivant, tel qu'il battait dans son sein avec les gouttements roses de son sang. Il n'y avait plus là une image de passion dévote, mais une matérialité, un prodige de tendresse, qui, lorsqu'il priait devant la gravure, lui faisait élargir les mains pour recevoir religieusement le cœur sautant de la gorge sans tache. Il le voyait, il l'entendait battre. Et il était aimé, le cœur battait pour lui. C'était comme un affolement de tout son être, un besoin de baiser le cœur, de se fondre en lui, de se coucher avec lui au fond de cette poitrine ouverte. Elle l'aimait activement jusqu'à le vouloir dans l'éternité auprès d'elle, toujours à elle. Elle l'aimait efficacement, sans cesse occupée de lui, le suivant partout, lui évitant les moindres infidélités. Elle l'aimait tendrement plus que toutes les femmes ensemble, d'un amour bleu, profond, infini comme le ciel. Où aurait-il jamais trouvé une maîtresse si désirable? Quelle caresse de la terre était comparable à ce souffle de Marie dans lequel il marchait? Quelle union misérable, quelle jouissance ordurière pouvait être mise en balance avec cette éternelle fleur du désir montant toujours sans s'épanouir jamais? Alors le Magnificat, ainsi qu'une bouffée d'encens, s'exhalait de sa bouche. Il chantait le chant d'allégresse de Marie, son tressaillement de voix à l'approche de l'époux divin. Il glorifiait le Seigneur qui renversait les puissants de leur trône et qui lui envoyait Marie, à lui, un pauvre enfant nu, se mourant d'amour sur le carreau glacé de sa cellule. Et lorsqu'il avait tout donné à Marie, son corps, son âme, ses biens terrestres, ses biens spirituels, lorsqu'il était nu devant elle à bout de prière, les litanies de la Vierge jaillissaient de ses lèvres brûlées avec leur appel répété, entêté, acharné dans un besoin suprême de secours céleste. Il lui semblait qu'il gravissait un escalier de désir. À chaque saut de son cœur, il montait une marche. D'abord, il la disait sainte. Ensuite, il l'appelait mère, très pure, très chaste, aimable, admirable. Et il reprenait son élan, lui criant six fois sa virginité, la bouche comme rafraîchie chaque fois par ce mot de vierge, auquel il joignait des idées de puissance, de bonté, de fidélité. À mesure que son cœur l'emportait plus haut, sur les degrés de la lumière, une voix étrange venue de ses veines parlait en lui, s'épanouissant en fleurs éclatantes. Il aurait voulu se fondre en parfum, s'épandre en clarté, expirer en un soupir musical. Tandis qu'il la nommait miroir de justice, temple de la sagesse, source de sa joie, il se voyait pâle d'extase dans ce miroir. Il s'agenouillait sur les dalles tièdes de ce temple. Il buvait à l'entrée l'hiverse de cette source. Et il la transformait encore, lâchant la bride à sa folie de tendresse pour s'unir à elle d'une façon toujours plus étroite. Elle devenait un vase d'honneur choisi par Dieu, un saint d'élection où il souhaitait de verser son être, de dormir à jamais. Elle était la rose mystique, une grande fleur éclose au paradis, faite des anges entourant leur reine, si pure, si odorante, qu'il la respirait du bas de son indignité avec un gonflement de joie dans ses côtes craquées. Elle se changeait en maison d'or, en tour de David, en tour d'ivoire, d'une richesse inappréciable, d'une pureté jalousée des cygnes, d'une taille haute, forte, ronde, à laquelle il aurait voulu faire de ses bras tendus une ceinture de soumission. Elle se tenait debout à l'horizon. Elle était la porte du ciel qu'il entrevoyait derrière ses épaules lorsqu'un souffle de vent écartait les plis de son voile. Elle grandissait derrière la montagne à l'heure où la nuit pâlit. Étoile du matin, secours des voyageurs égarés, aube d'amour. Puis, à cette hauteur, manquant d'haleine, non rassasié encore, mais les mots trahissant les forces de son cœur, il ne pouvait plus que la glorifier du titre de reine qui lui jetait 9 fois, comme 9 coups dans son soir. Son cantique se mourait d'allégresse dans ses cris du triomphe final. Reine des vierges, reine de tous les saints, reine conçue sans péché. Elle, toujours plus haut, resplendissait. Lui, sur la dernière marche, la marche que les familiers de Marie atteignent seuls, restait là un instant, pâmée au milieu de l'air subtil qui l'étourdissait, encore trop loin pour baiser le bord de la robe bleue, se sentant déjà rouler avec l'éternel désir de remonter, de tenter cette jouissance surhumaine. Que de fois les litanies de la Vierge récitées en commun dans la chapelle avaient ainsi laissé le jeune homme les genoux cassés, la tête vide, comme après une grande chute. Depuis sa sortie du séminaire, l'abbé Mouret avait appris à aimer la Vierge davantage encore. Il lui vouait ce culte passionné où frère Archangias flairait des odeurs d'hérésie. Selon lui, c'était elle qui devait sauver l'Église par quelque prodige grandiose dont l'apparition prochaine charmerait la terre. Elle était le seul miracle de notre époque impie. La dame bleue se montrant au petit berger, la blancheur nocturne vue entre 2 nuages et dont le bord du voile traînait sur les chaumes des paysans. Quand frère Archangias lui demandait brutalement s'il l'avait jamais aperçue, il se contentait de sourire, les lèvres serrées, comme pour garder son secret. La vérité était qu'il la voyait toutes les nuits. Elle ne lui apparaissait plus ni sœur joueuse, ni belle jeune fille fervente. Elle avait une robe de fiancée avec des fleurs blanches dans les cheveux, les paupières à demi baissées, laissant couler des regards humides d'espérance qui lui éclairaient les joues. Et il sentait bien qu'elle venait à lui, qu'elle lui promettait de ne plus tarder, qu'elle lui disait « Me voici, reçois-moi ». 3 fois chaque jour, lorsque l'Angélus sonnait, au réveil de l'aube, dans la maturité de midi, à la tombée attendrie du crépuscule, il se découvrait, il disait un ave en regardant autour de lui, cherchant si la cloche ne lui annonçait pas encore la venue de Marie. Il avait 25 ans, il l'attendait. Au mois de mai, l'attente du jeune prêtre était pleine d'un heureux espoir. Il ne s'inquiétait même plus des gronderies de l'atteuse. S'il restait si tard à prier dans l'église, c'était avec l'idée folle que la grande Vierge dorée finirait par descendre. Et pourtant, il la redoutait, cette Vierge qui ressemblait à une princesse. Il n'aimait pas toutes les Vierges de la même façon. Celle-là le frappait d'un respect souverain. Elle était la Mère de Dieu. Elle avait l'ampleur féconde, la face auguste, les bras forts de l'épouse divine portant Jésus. Il se la figurait ainsi au milieu de la cour céleste, laissant traîner parmi les étoiles la queue de son manteau royal, trop haute pour lui, si puissante qu'il tomberait en poudre si elle daignait abaisser les yeux sur les siens. Elle était la Vierge de ses jours de défaillance, la Vierge sévère qui lui rendait la paix intérieure par la redoutable vision du paradis. Ce soir-là, l'abbé Mouret resta plus d'une heure agenouillé dans l'église vide. Les mains jointes, les regards sur la Vierge d'or, se levant comme un astre au milieu des verdures, il cherchait l'assoupissement de l'extase, l'apaisement des troubles étranges qu'il avait éprouvés pendant la journée. Mais il ne glissait pas au demi-sommeil de la prière avec les ansereuses qui lui étaient accoutumées. La maternité de Marie, toute glorieuse et pure qu'elle se révéla, cette taille ronde de femme faite, cet enfant nu qu'elle portait sur un bras, l'inquiétait, lui semblait continuer au ciel la poussée débordante de génération au milieu de laquelle il marchait depuis le matin. Comme les vignes des coteaux pierreux, comme les arbres du Paradou, comme le troupeau humain des Artaux, Marie apportait l'éclosion, engendrait la vie. Et la prière s'attardait sur ses lèvres. Il s'oubliait à des discrétions, voyant des choses qu'il n'avait point encore vues. La courbe molle des cheveux châtains, le léger gonflement du menton barbouillé de rose. Alors elle devait se faire plus sévère, l'anéantir sous l'éclat de sa toute-puissance pour le ramener à la phrase de l'oraison interrompue. Ce fut ainsi par sa couronne d'or, par son manteau d'or, par tout l'or, qu'il la changeait en une princesse terrible, qu'elle acheva de l'écraser dans une soumission d'esclave, la prière coulant régulière de sa bouche, l'esprit perdu au fond d'une adoration unique. Jusqu'à 11 heures, il dormit éveillé de cet engourdissement extatique, ne sentait plus ses genoux, se croyant suspendu, balancé ainsi qu'un enfant qu'on endort, se laissant aller à ce repos, tout en gardant la conscience d'un poids qui lui alourdissait le cœur. Autour de lui, l'église s'emplissait d'ombre, la lampe charbonnait, les hauts feuillages assombrissaient le visage verni de la Grande Vierge. Quand l'horloge, avant de sonner l'heure, grinça d'une voix arrachée, l'abbé Mouret eut un frisson. Il n'avait pas senti la fraîcheur de l'église lui tomber sur les épaules. Maintenant, il grelottait. Comme il se signait, un rapide souvenir traversa la stupeur de son réveil. Le claquement de ses dents lui rappelait les nuits passées sur le carreau de la cellule en face du Sacré-Cœur de Marie, le corps tout secoué de fièvre. Il se leva péniblement, mécontent de lui. D'ordinaire, il quittait l'autel, la chair sereine, avec la douceur du souffle de Marie sur le front. Cette nuit-là, lorsqu'il prit la lampe pour monter à sa chambre, il lui sembla que ses tempes éclataient. La prière était restée inefficace. Il retrouvait, après un court soulagement, la même chaleur grandie depuis le matin de son cœur à son cerveau. Puis, arrivé à la porte de la sacristie, au moment de sortir, il se tourna. Il éleva la lampe d'un mouvement machinal, cherchant à voir une dernière fois la Grande Vierge. Elle était noyée sous les ténèbres, descendue des poutres, enfoncée dans les feuillages, ne laissant passer que la croix d'or de sa couronne.